quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, que ça va être qu'on va être à la retraite.
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Audrey.
Bonjour Inès. Comment va la culture? Plan de relance du gouvernement pour la culture. Qu'est-ce qui est prévu dans nos studios, la Diesel Company et la compagnie Passaros pour parler de leur actualité?
Aurélie Marpeau, directrice du Zoom, lauréate du concours HLM sur cours 2020, était en tournage au quartier Terre des Fleurs à Bourg-en-Bresse. Reportage.
Bourg, en bref.
Et on commence avec l'actualité. L'Ain est désormais en zone rouge. Ça signifie que la circulation du virus est active. Du côté de l'hôpital Fléria, on se prépare à la deuxième vague. Madame Labrogoubi, directrice du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Le premier signal de la reprise de l'épidémie, c'est le nombre d'appels passés au SAMU. Aujourd'hui, on a 30% du nombre de dossiers traités qui concernent des prises en charge Covid, qui sont a priori sur des domaines qui relèvent plus de la médecine ambulatoire que de la médecine hospitalière. Donc ça déjà, au début de la chaîne, on sait que c'est un élément qui va influencer sur les prises en charge à venir. Aujourd'hui, nous n'avons pas de nouveaux patients en réanimation, mais nous avons commencé à accueillir des patients dans notre circuit respiratoire aux urgences, et nous avons aussi accueilli des patients en médecine infectiologie pour la prise en charge de Covid-19.
À Fléria, tout un travail a été réalisé pour tirer les enseignements de cette première vague. 90 professionnels auditionnés. Sur Internet, 350 agents ont répondu à une enquête en ligne pour l'amélioration de la prise en charge soignante. La directrice affirme qu'il y a maintenant une meilleure connaissance du virus pour une meilleure gestion de crise. Au niveau du matériel, Madame Labrogoubi se veut aussi rassurante.
Aujourd'hui, et par ces stocks-là fournis par l'État et par des achats aussi de l'établissement, on garantit un certain nombre de mois de stock sur les éléments les plus importants, les masques chirurgicaux, les FFP2 et les surblouses. On a quand même encore sur certains secteurs des tensions, mais comme les ont tous les hôpitaux en France, aujourd'hui le débat s'est plus porté sur paradoxalement les casaques de bloc opératoire, mais on a trouvé aussi des solutions internes pour pouvoir garantir l'approvisionnement sur ces secteurs-là. Donc voilà, aujourd'hui, très clairement par rapport au début de la première phase, nos équipements individuels qui sont là pour sécuriser nos professionnels sont présents en nombre pour ne pas en limiter l'usage et permettre effectivement qu'ils garantissent leur rôle et leur mission.
La directrice a souhaité maintenir l'interdiction des visites aux personnes hospitalisées à l'hôpital Fléria afin de limiter les contacts avec l'extérieur et donc l'épidémie. Du côté des tests par coton de tige, ils sont toujours faisables dans des drives. Le docteur Canu nous explique leur utilité.
Le bon moment pour aller faire un test, c'est déjà quand on a des symptômes. Ça, c'est indispensable. Quand vous avez des symptômes, vous devez aller vous faire tester. L'autre situation, c'est celle d'avoir eu un contact avec quelqu'un que l'on connaît comme étant positif. Vous avez passé une soirée tous ensemble et puis vous avez, 4 jours plus tard, un ami qui vous appelle en disant « je suis positif ». Voilà, vous savez que vous avez mangé et bu sur la même table ou que vous avez discuté tous ensemble de manière rapprochée, sans avoir porté le masque correctement. À ce moment-là, il faut aller vous faire dépister aussi. C'est important. Quand vous avez eu un contact avec quelqu'un, le bon moment pour faire le test, c'est entre le 4e et le 6e jour. Donc y aller le lendemain de la soirée, ça ne sert à rien. N'y allez pas le lendemain de la soirée, vous saturez les filières. Et de fait, ça vous donnera sûrement un résultat négatif, mais qui peut être faussement négatif parce que réalisé trop tôt.
Et donc pendant ces 4 jours, 4-6 jours qu'on attend, on s'isole ?
Non, on ne s'isole pas, on prend les mesures barrières que l'on doit tous prendre tout le temps actuellement. Porter le masque, avoir une hygiène des mains rigoureuse. Et quand on enlève le masque, être à distance, au moins 1 mètre, 1,50 m, pour bien faire des uns et des autres.
À Bourg-en-Bresse, on compte des clusters, 40 cas détectés dans l'EHPAD La Pergola, 13 chez les surveillants de la prison et aussi 3 cas au lycée Edgar Quinet.
Des professionnels du CPA à votre écoute, par téléphone ou par mail. La plateforme lancée fin avril en plein confinement pour venir en aide aux personnes fragilisées par la crise sanitaire continue et évolue. Marina Pevergne, médiatrice réseau en santé mentale au centre psychothérapique de l'Ain.
Pendant les appels, on a remarqué que les personnes ne savaient pas trop où s'orienter selon leurs problématiques. Du coup, on a décidé de pérenniser cette plateforme téléphonique pour aider les personnes justement à s'orienter, à leur donner des informations qui sont fiables et à les informer sur différentes questions liées à la santé mentale. Donc les personnes peuvent appeler pour n'importe quelle problématique en lien avec la santé mentale et en lien avec la Covid ou non, parce que même si on est en période de déconfinement, les médias parlent encore de la Covid, d'une possible deuxième vague, etc. Donc on est là aussi pour réassurer à ce niveau-là.
Et pour les personnes qui vous ont contacté donc, via cette plateforme, vous avez eu des nouvelles ensuite ?
Non, parce qu'en fait, le but de notre plateforme, c'est vraiment d'écouter et d'orienter vers le dispositif, l'association, la structure adéquate, si vous voulez. Nous, notre plateforme téléphonique, ce n'est pas une cellule d'accompagnement psychologique. On n'incite pas les personnes à nous rappeler parce qu'on ne peut pas leur proposer ce service-là. Nous, ce qu'on fait, c'est les orienter vers sa vie, justement, qui pourra les suivre sur le long terme.
Les deux médiatrices réseau en santé mentale du CPA sont à votre écoute par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 au 04 74 52 24 40 ou par mail à echo@orsac-cpa01.fr. Cette plateforme est pour les habitants de l'Ain, mais le numéro et le mail sont ouverts à toutes les personnes qui en auraient besoin.
Quel bilan pour le tourisme dans l'Ain cet été ?
Le département et un tourisme évaluent les effets de leur plan de relance. Ils avaient débloqué près de 6 millions d'euros pour aider les acteurs touristiques du territoire. La saison n'a vraiment démarré qu'à partir de la dernière semaine de juillet et le mois d'août a été exemplaire grâce à la météo et plus de vacanciers originaires de la région. Promouvoir nos territoires, c'est aussi l'un des objectifs du Tour de France.
Avant de partir de Bourg-en-Bresse le 18 septembre, les coureurs de la Grande Boucle étaient au Grand Colombier. 15e étape, dimanche dernier, partie de Lyon, l'arrivée s'est faite au sommet de la pyramide du Bugey à 1500 mètres d'altitude. La préfecture de l'Ain a décidé de fermer l'accès au sommet, le département étant passé en zone rouge quelques jours avant, ce qui a valu des pertes économiques pour les restaurateurs notamment. Les amateurs de vélo étaient présents sur la montée de la selle de Fromentel, la première de l'étape, colombien, slovène, belge, de nombreuses nationalités étaient représentées. Des victoires slovènes, c'est Pogacar qui remporte l'étape et le maillot jaune est pour Roglic. Cette étape a aussi été l'occasion de faire passer des messages. Des agriculteurs étaient présents avec des fresques gigantesques pour rappeler leur importance. L'association France-Palestine Solidarité a aussi montré son désaccord avec la participation de l'équipe Israel Startup Nation, composée de 3 Français. Pour AFPS, cette équipe fait la promotion d'un État qui bafoue les droits des Palestiniens.
Ce vendredi 18 septembre, la 19e étape reliera Bourg-en-Bresse à Champagnole dans le Jura. Départ à 13h45 depuis le monastère royal de Brou. Radio B y sera pour une émission spéciale en direct de 12h30 à 14h. Parmi nos invités, le maire de Bourg, une ancienne cycliste, un ancien coureur du Tour de France et 2 bénévoles de Radio B, fins connaisseurs du vélo. Rejoignez-nous au pied du monastère de Brou pour une émission spéciale en direct sur le 90FM ou sur notre site radio-b.fr.
Regardez partir les coureurs et ses objets.
Deux collectes solidaires sont organisées le jour du départ du Tour. Objectif, récupérer pendant le Tour de France 5000 vélos délaissés pour leur offrir une nouvelle jeunesse. Un vélo récupéré, eh bien, c'est 30 euros versés à Emmaüs. Même si vous n'avez pas de vélo à donner, vous pouvez participer à l'appel aux dons sur le site letour.fr. Alors Inès, si je te dis, il y en a 6 millions stockés dans nos tiroirs, tu me réponds ?
Les téléphones portables ?
Et oui, et beaucoup peuvent encore être utilisés à l'occasion du Tour de France. Une structure spécialisée pour collecter et recycler des appareils électriques a lancé une collecte nationale exceptionnelle, récupérée sans téléphone portable dans chaque ville départ du Tour de France. À Bourg-en-Bresse, les téléphones seront reconditionnés et distribués aux personnes avec peu de moyens par le CCAS, le Centre communal d'action sociale burgien. Pour donner votre portable, connectez-vous sur jedonnemontelephone.fr.
Et une autre collecte, les poubelles.
Quelques changements avec le départ du Tour de France de Bourg ce vendredi 18 septembre. Elle aura lieu plus tôt que d'habitude à Bourg-en-Bresse et Jasseron. Les déchets doivent être déposés le 17 après 20h ou le 18 avant 5h30.
Et le vélo sera encore à l'honneur samedi 19 septembre à Jasseron. Bourse au vélo, concours décoration de vélo ou encore essai de vélo électrique. Ça se passe au complexe sportif de Jasseron de 14h à 21h. Programme à retrouver sur jasseron.fr.
Le patrimoine sera aussi à l'honneur le week-end des 19 et 20 septembre pour les Journées européennes.
Une soixantaine d'événements sont prévus dans le département. Visite d'un moulin à huile à Neuville-sur-Ain, la gare des tramways de Bagé-la-Ville ou encore une balade pour découvrir les fours à pain à Ilia. Tous les rendez-vous et les infos sont sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.
2 minutes, une actu.
Pour ce nouveau rendez-vous qui décrypte l'information, Inès, on va s'intéresser aux aides pour le monde de la culture.
La culture, c'est un secteur qui emploie plus de 2% de la population active française. En moyenne, les structures culturelles devraient perdre un quart de leur chiffre d'affaires sur l'année 2020. Alors forcément, le gouvernement veut aider les salariés et les structures d'un milieu mis à mal par la crise sanitaire. Pour ça, ils déploient un plan de relance de 2 milliards d'euros. Ils seront utilisés en priorité sur 5 points. La restauration du patrimoine, qui représente plus d'un quart du budget. L'aide au spectacle vivant, presque un quart aussi. Le soutien aux artistes, l'aide aux filières comme la presse, le cinéma, les livres et l'audiovisuel. Et enfin, les investissements d'avenir pour l'industrie culturelle. Avant ce plan, des mesures d'urgence de 5 milliards d'euros environ avaient été mises en place, notamment avec l'année blanche pour l'intermittence ou l'exonération de charges sociales.
Des aides aussi au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
6 millions d'euros devraient être votés par la commission permanente jeudi 17. Ces aides sont pour le patrimoine, le spectacle vivant, les festivals et les arts plastiques. Des aides spécifiques sont aussi mises en place pour les secteurs du cinéma, du livre et des jeux vidéo notamment. Dans quelques instants, l'avis de nos invités sur ce plan de relance.
L'invité de Radio B.
Avec nous en studio, Christine Larivière, bonjour.
Bonjour.
Comédienne et metteuse en scène à la Diesel Compagnie. Émilie Borgo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chorégraphe et danseuse à la compagnie Passaros. Alors vous êtes toutes les deux dans le monde du spectacle vivant qui devrait toucher les aides dont nous avons parlé. Que pensez-vous de ces plans, celui du gouvernement et de la région, Émilie Borgo?
Tant que ce n'est pas concret, je dirais que c'est un peu abstrait en réalité. Là, on peut dire qu'en tant qu'artiste, c'est vrai qu'on a été sauvé par l'année blanche et que de ce point de vue-là, on est rassuré. Sur la structure en tant que telle, ce n'est pas évident parce que nous, ça fait quelques années que la région ne nous aide plus, par exemple. Donc je ne sais pas si on sera bénéficiaire de ce plan de relance. On est aidé par toutes les autres tutelles politiques. Donc là, je ne peux pas vous donner d'avis. Donc c'est toujours la même chose, il faut voir les critères, et etc. et rentrer dans la bonne case pour bénéficier de l'aide.
Donc plutôt abstrait pour le moment. Christine Larivière, une réaction aussi?
Eh bien, c'est un petit peu comme Émilie, c'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, c'est vrai que le renouvellement des droits est repoussé au 30 août 2021, donc on va dire que ça nous laisse de la marge. En même temps, on ne sait pas comment la situation va se passer au niveau de la diffusion du spectacle vivant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Nous, on est en zone rouge. Tous les jours, on a des spectacles qui s'annulent, avec des dates qui s'annulent. Donc, même si on a cette année blanche, si par exemple, les spectacles s'annulent pendant un an, là, ça fait quand même depuis le mois de mars. Et quand on apprend qu'on a des dates qui s'annulent en janvier 2021, en février 2021, nous, on va faire comment, quoi? C'est un petit peu alarmant ce que je dis, mais c'est quand même assez, pour le coup, assez concret. C'est ce qui se passe aujourd'hui même. Donc, en fait, on a des dates qui s'annulent en 2021. Donc, on a l'impression que la crise, elle va durer quand même très longtemps. Et du coup, la crise économique dans les spectacles vivants, c'est vraiment c'est une grosse réalité quoi, qui est en train de se mettre en place. Donc après, on se dit que plus, entre guillemets, plus on s'enfonce, plus il va falloir du temps pour remonter. Alors pour des structures qui sont assez solides, on va dire les grosses structures, des compagnies assez moyennes qui fonctionnent plutôt bien, qui tournent plutôt bien. Nous, c'est vrai qu'avant le Covid, on était plutôt en phase de développement. Donc on avait entre guillemets le vent en poupe, donc c'était super. Donc bon, là c'est beaucoup moins super, mais j'imagine des compagnies de théâtre qui commencent, qui sont dans des difficultés, alors là c'est quand même assez compliqué.
Et justement pour vous donc, Christine Larivière, la Diesel Compagnie, comment ça va? Comment va votre compagnie?
Ben, on va dire que ça va, on s'en sort. On a quand même aussi des salariés dans la compagnie, il n'y a pas que des intermittents. Quoi, une salariée, mais ce qui est énorme hein, sur une compagnie. Ça va, on s'en sort, mais il ne faut pas que ça dure non plus. On compte les jours, on compte les semaines, on compte les mois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dure une éternité. Donc pour l'instant, ça va pour nous. Mais bon, avant de venir au studio, voilà, j'ai une date qui vient de s'annuler. Donc voilà, une date qui s'annule, bah, c'est un cachet en moins. Donc on la prend juste là, et puis demain, je vais sûrement en avoir une autre. En tout cas, là, depuis une semaine, tous les jours, il y a des dates qui s'annulent. Donc c'est assez difficile, c'est une situation assez difficile et anxiogène, en fait. Excusez-moi, je suis assez négative, mais...
Bah, non, mais...
Mais je suis assez réaliste, en tout cas, de la situation actuelle aujourd'hui.
C'est votre réalité. Émilie Borgo, je vous vois acquiescer au propos de Christine Larivière.
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que la question des aides, elle est fondamentale et en même temps, elle est assez sur du court terme. Et c'est vrai que je pense que nous, c'est la même chose que la Diesel Compagnie, sur du court terme, sur l'année là, qui vient 2020. On est à peu près hors d'eau, hors d'air. Voilà, les financements qui ont été votés le sont, même si on a eu pas mal de dates annulées et de choses qui ont sauté, on va survivre. Mais par contre, avoir de la perspective pour l'avenir, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut réinventer différemment les choses. Réinventer pour une situation qu'on ne connaît pas. Là, on doit déposer nos dossiers de subvention à la ville de Bourg-en-Bresse pour vendredi, pour un projet sur une année en 2021. Et j'avoue que c'est extrêmement compliqué. Et on a... pas non plus énormément de soutien administratif alors qu'on est avec une charge de travail administratif qui est plus lourde. C'est le cas de tout le monde, mais c'est vrai que quand on est des petites structures, nous on n'a pas de salariés permanents, c'est extrêmement lourd et extrêmement difficile.
Qu'est-ce que vous diriez sur l'impact de cette crise sanitaire sur vos prochaines créations?
Alors nous, en termes de création, ça va. Parce que la prochaine création, elle sort en mars 21, elle est financée. Donc sur celle-là, tout va bien, on va juste espérer qu'elle va pouvoir tourner dans des conditions normales et c'est une petite forme, normalement elle n'est pas trop compliquée. Par contre, pour après, c'est plus la perspective à un peu plus long terme, où là, tout est plus compliqué. Parce qu'avec tous les reports qu'il y a eu des mois précédents, on a du mal à relancer des choses pour après. Et nous, on a toujours un an ou deux ans d'anticipation sur les projets. Donc en ce moment, on ne peut pas faire ça.
Donc là, vous ne pouvez pas créer de nouveaux projets parce qu'il y a encore ceux qui vont se...
Qui sont décalés, qui vont sortir. Les lieux sont assez saturés par tous les reports de résidence des 6 mois là qu'on vient de passer. Donc du coup, on a du mal à avoir de la perspective.
Christine Larivière, même constat?
Oui, c'est un petit peu le même constat. C'est-à-dire que... On a du mal à se projeter dans la mesure où, pour l'instant, on est simplement sur des décalages de dates, des changements de calendrier, ce qui est quand même assez lourd, c'est-à-dire qu'on refait un calendrier pour après le redéfaire et le refaire. On est sur des détricotages, retricotages. Et du coup, on a du mal à se projeter sur un projet, finalement. On est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, sur le « ici et maintenant », c'est-à-dire de faire en sorte de ce qui est prévu, de faire en sorte que ça se fasse. Et que ça se fasse
dans de bonnes conditions.
Voilà.
Et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la création, pour des artistes, de vivre dans le ici et maintenant, Émilie Borgo, en termes de création, vraiment?
Ça, c'est pas désagréable. Parce que je dirais qu'on est, toujours, en général, projeté un petit peu dans le futur et de revenir à ici et maintenant, c'est plutôt plaisant. Et c'est-à-dire que les temps, là, on était en résidence à la Tannerie la semaine dernière, les temps de travail au plateau, on les a vraiment goûtés, on les a vraiment appréciés, on était heureux d'être là, de pouvoir faire ce qu'on pouvait faire. En plus, on a le droit d'enlever notre masque sur le plateau. Donc voilà, là, on était à fond.
Christine Larivière?
Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tout ce qui est création, tant qu'on est puisque de toute façon, il n'y a que ça qu'on peut faire en ce moment, c'est d'être dans la création. Donc si on peut être sur un plateau ou dans l'espace public pour tenter de créer et essayer des choses, on en profite pour créer. C'est vraiment la seule chose qu'on peut faire. Après, aller sur le projet, c'est plus compliqué. Aller sur de la diffusion de date, des calendriers de diffusion, c'est plus compliqué. Penser sur des spectacles, pour nous, on a des spectacles qui tournent, où on est vraiment en interaction avec le public et l'espace public. Donc, du coup, les conditions sanitaires, elles ne peuvent pas du tout être respectées. Donc, ça ne peut pas se faire. On a une création qui sort bientôt, qui s'appelle Vieillis-moi jamais, qui est autour de la condition du vieillissement des femmes.
On en reparlera un petit peu plus tard.
Ben, pour dire qu'il y a quand même pas mal de spectacles qui sont adressés aux seniors, qui du coup maintenant, au niveau de la diffusion, c'est compliqué parce que c'est un public fragile. Donc,
ça remet plusieurs choses en question.
Ouais. Forcément.
Émilie Borgo, rencontre avec le public donc le 19 septembre, puisque commence... l'aventure Danse Planétaire, expliquez-nous.
Alors la Danse Planétaire, c'est un très très beau projet d'une chorégraphe que j'adore qui s'appelle Anna Alprin, qui a 100 ans cette année, qui est toujours en vie et qui a toujours mené des projets très proches du vivant et des gens. Et donc c'est une danse participative qui est comme un mandala ou un processus en land art, mais avec le corps, où les gens peuvent marcher, courir, danser avec une intention et on dessine une forme dans l'espace public. Et donc ce week-end, il y a un premier stage avec Nathalie Chazot, la chorégraphe qui va porter ce travail, et deux musiciens, Moussa Dembélé et Roald Ritter. Et c'est un week-end un peu plus long que les répétitions qui suivront, parce que c'est vraiment le temps de découvrir le travail d'Anna Alprin et de rentrer un petit peu plus dans son univers.
Donc c'est samedi, le 19 septembre. Est-ce qu'il est toujours possible de s'inscrire à ce stage? Donc un peu, quelles sont les modalités, Émilie Borgo?
Oui, tout à fait. Donc il reste quelques places. C'est samedi et dimanche, samedi après-midi et dimanche sur la journée. Ça sera à la MCC, dans une des très belles salles de danse toutes neuves de la MCC. Et vous pouvez encore vous inscrire. Le plus simple, c'est d'envoyer un petit mail à danseplanétaire@gmail.com ou vous chinez sur le site www.passaros.fr. Vous trouverez les infos.
Donc des stages gratuits, il faut juste en fait adhérer à la compagnie Passaros.
Voilà, parce que le projet est lauréat de la Fondation SNCF, il a été soutenu par la DRAC Rhône-Alpes, par le conseil départemental, donc on a eu de bon soutien et on sent qu'il y a une envie pour ce type de projet qui sont participatifs et qui nous rassemblent malgré tout et malgré les difficultés qu'on a au niveau du Covid et des questions de distanciation, normalement on devrait pouvoir y arriver.
Émilie Borgo, en quelques mots avant de passer à l'actualité de la Diesel Compagnie, on parle du festival aussi, l'Irrégulier.
Alors tout à fait, la Danse Planétaire, donc son point d'ancrage, ça sera le 22 novembre en clôture du festival L'Irrégulier qui cette année pour la 5e édition aura lieu du 10 au 22 novembre. Avec une programmation qui est quand même assez dense, dont en tête d'affiche Maggie Marin au théâtre. Et donc on est vraiment contents de ce moment-là. Alors par contre, c'est comme pour la Diesel, là on vient d'annuler les derniers spectacles de compagnies étrangères. Ça sera, donc c'est un petit peu dur aussi, mais ce sera quand même une très très belle édition. Puis on vous attend pour ce moment.
Christine Larivière, vous aussi, vous avez quand même de nouveaux projets. Le GR01, la Grande Randonnée 01, qu'est-ce que c'est en résumé?
En fait, l'idée, c'est de créer un sentier de grande randonnée donc dans un quartier de Bourg-en-Bresse, c'est le quartier du Pont des Chèvres. Donc, de le créer et de le faire découvrir au public. Donc c'est le GR01, quand même, voilà, d'un Bourg-en-Bresse, la capitale du premier département de France, qui est quand même pas rien. Et c'est de découvrir des points de vue, des sites historiques... Donc c'est de faire un petit peu un pas de côté pour voir le quartier autrement. Et dans ce projet, on est accompagné d'un artiste que j'ai rencontré en 2015, qui s'appelle Nicolas Mémin, qui est un artiste, un urbaniste marcheur, qui a créé le GR 2013 à Marseille, quand Marseille a été capitale de la culture. Et du coup, Nicolas, ce qu'il a, c'est qu'il a l'art de mettre la poésie dans le béton. Il vous dira, le goût commun vous dira que c'est moche, mais nous, on va faire de l'opéra. Et c'est ça. Il est assez extraordinaire. On est super contents de l'avoir avec nous, donc dans cette déambulation, parce que finalement, ce sentier qu'on va emprunter, on va faire une déambulation sous forme de spectacle, spectaculaire, on peut le dire comme ça, en sa présence. Et il va nous amener... Il va nous mettre de la poésie et Il est extra, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer, il faut vraiment le découvrir. Donc on sera avec lui, hein, on crée ensemble. Et il a vraiment l'art de rendre des édifices auxquels on passera à côté et il nous les rend extraordinaires, insolites.
Et justement, pour assister à ça, c'est quand, où ?
Alors, ce sera... Il y a 5 rendez-vous. Donc, le samedi 26 septembre à 16h, le dimanche 27 septembre à 16h, le mercredi 30 septembre à 17h, et le 3 et 4 octobre à 16h. Et le rendez-vous est devant la CAF.
Est-ce qu'on est limité en nombre de personnes ? Est-ce qu'il y a un prix à donner ?
Donc, c'est en entrée libre. Donc la jauge est de 150 personnes, donc je pense qu'on ne sera pas 150 personnes, puisque de toute façon le port du masque est obligatoire et les distanciations physiques sont de 1 mètre évidemment. Voilà.
Et donc votre deuxième projet, vous en avez parlé tout à l'heure, Vieille-moi jamais, c'est quand, comment ça se passe?
Alors Vieille-moi jamais, c'est un spectacle sur lequel on travaille depuis janvier 2018. Donc c'est assez long, donc on a fait une grande récolte d'écriture, de paroles, d'interviews, de rencontres pour faire cette création. Donc on est 3 au plateau, il y a moi, Aurélie Giraudon et Nicole Biondi qui est une comédienne de 81 ans. Donc c'est un aboutissement d'un travail de 2 ans en fait, je me rends compte maintenant. Et du coup, c'est sur la condition du vieillissement des femmes.
On pourra le voir quand ?
Alors, la première vient d'être annulée. La deuxième est le 6 octobre, du coup, à Trévoux.
Et à quelle heure ?
À 14h30. En espérant, en croisant les doigts, on croise les doigts. Et après, il y a plusieurs dates. Il y aura le 17 octobre à Marbeau à 17h. Et après, il y a des dates en novembre et décembre, jusque voilà, l'année prochaine. Pour l'instant, on a des dates jusqu'en juillet 2021.
Et ça, toutes ces dates, on peut les retrouver où, Christine?
Vous pouvez les trouver sur le site de la Diesel, donc www.diesel.compagnie.fr.
Merci à toutes les deux. Merci Christine Larivière, comédienne et metteuse en scène à la Diesel Compagnie. Et merci Émilie Borgo, chorégraphe et danseuse à la compagnie Passaros.
Merci. Merci.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière au fond, loin, il y a une vague.
En reportage avec Radio B.
La semaine dernière, Aurélie Marpeau, directrice artistique au Zoom, a tourné son nouveau court-métrage dans le quartier Terre des Fleurs. À Point, c'est son titre, l'histoire d'une jeune fille, Anna, qui vient de banlieue et qui veut réaliser son rêve, être cuistot. Pour y parvenir, elle doit faire face à de nombreux concurrents. Nous avons assisté au premier jour du tournage entre les HLM du quartier Terre des Fleurs.
Tu peux fermer les yeux, yes.
Il est 14h passé et le maquillage des acteurs n'est pas terminé. Premier jour et c'est déjà le rush pour le tournage au quartier Terre des Fleurs. Sous une tente, on s'active pour finir les derniers détails.
Alors moi, c'est Noémie, la maquilleuse. En fait, c'est pas un maquillage qui doit se voir, c'est juste quelque chose qui va corriger les petites rougeurs, unifier le teint et qu'il n'y ait pas de brillance. Et voilà, qu'il soit sublimé dans son naturel. C'est ça, pour son personnage.
Sur le tournage, plusieurs jeunes amateurs, mais aussi des acteurs pros comme Ilyes Kadri.
Je vais jouer le rôle d'Hichem, un des amis de Anna. C'est un personnage un peu, comment dire, qui a une grande part de sensibilité, mais c'est un peu un moqueur, c'est une personne qui aime bien déconner, et c'est un bon vivant en fait.
C'est toi dans la vie ça ou pas trop?
Ouais, si, il me ressemble beaucoup le personnage, ouais.
Et c'est plus facile de jouer quelqu'un qui te ressemble?
Ouais, bah oui, c'est plus facile, c'est plus naturel. Bien sûr, c'est plus facile. C'est pour ça que je suis confiant.
Noémie,
tu vas jouer quoi aujourd'hui ?
Le rôle de Mélissa. Donc je suis dans l'école de cuisine de Anna, le personnage principal, et je suis un peu en concurrence avec elle. Voilà, j'ai envie d'être meilleure qu'elle. Enfin, elle arrive à faire mieux que moi et donc ça m'énerve. Voilà. Donc on est un peu en concurrence et voilà.
Et donc ça, c'est ce que tu veux faire, actrice, ou c'est un passe-temps ?
C'est un passe-temps, enfin, de base, je voulais faire ça, et en fait, c'est très compliqué dans ce milieu, donc du coup, j'essaie de faire ça en plus de ma formation, voilà.
Et tu es d'où ?
Mais de Bourg-en-Bresse, donc en fait, je suis chez moi, ici.
Clément.
Clément, tu vas jouer qui ?
Je joue le rôle de Damien. Donc Damien, il est très ami avec Mélissa, qu'on vient d'avoir tout à l'heure. Pareil, en concurrence indirecte avec Anna, puisque... on n'est pas du même sexe, etc. Mais ça l'énerve quand même bien de voir une fille de cité être meilleure que lui. Et sinon, bah, voilà, plein d'ambition, mais assez jaloux.
Donc là, il faut y aller, a priori.
A priori, il faut y aller, effectivement.
Okay, c'est bon pour moi, tu peux y aller, tu vois.
Okay. Excuse-moi, redemander le moteur.
Béton, 17 sur un deuxième.
Clap. Action.
Sur cette première scène, on retrouve plusieurs jeunes du quartier Terre des Fleurs, des figurants, mais aussi des rôles plus importants. Et c'est grâce à Arnaud Feuilleret, éducateur dans le quartier.
En partenariat avec Aurélie Marpeau, qui réalise le court-métrage, j'ai suivi ce projet de près afin d'y intégrer des jeunes du quartier de Terre des Fleurs. Donc aujourd'hui, je suis là un petit peu auprès des jeunes que j'accompagne en temps normal. Ah, ça permet de maintenir le lien avec les jeunes et puis... et puis de créer de nouvelles choses. Ça va mettre en lumière un petit peu le quartier qui est peut-être un peu plus endormi en ce moment. Et je trouve que c'est pas mal, ouais. C'est quelque chose de positif.
Je m'appelle Fabio. Là, je vais faire de la figuration donc sur l'après-midi. Et après, ce soir, je vais faire plus être dans le groupe et tout ça. C'est déjà quelque chose, étant donné que moi, j'aimerais bien être acteur, donc ça fait plaisir. C'est déjà un commencement.
C'est la première fois que tu fais figurant ?
C'est la première fois que je fais figurant, film, tout court. C'est la première fois. C'est vrai que c'est grâce à notamment à Arnaud qui m'a mis sur le projet. Ça fait plaisir et voilà. Que du bon pour la suite.
Le court-métrage À Point a été tourné en 6 jours. Il est réalisé dans le cadre du concours HLM Surcours qui veut mettre en avant une vision positive des logements sociaux et de leurs habitants.
Vous se réveillez à 15h là.
Je sais, moi je le réveille à midi.
Et au casting du court-métrage À Point, on retrouve aussi des acteurs comme Carole Richer qui joue aussi dans la série TV Clem et Philippe Rebaud qui jouait dans le film L'amour flou. Le court-métrage sera diffusé sur OCS au printemps 2021.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi entre 12h30 et 14h en face du monastère de Brou pour une émission en direct du Tour de France. D'ici là, restez sur le 90FM. Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite ?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.